L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.
Bonjour, c'est L'idée livre, votre émission littéraire sur CFM, présentée par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et accompagnée de Joël de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et Joël aujourd'hui nous parlera de la Revue Blanche. Donc nous allons vous présenter deux livres. Sophie et sa courge de Pat Zietlow-Miller, illustré par Anne Wilsdorf, édité chez Kaleidoscope. Et d'un deuxième livre, et contrairement à nos habitudes, nous allons parler d'abord du roman jeunesse, pour parler ensuite d'un roman adulte, Bilkis, de Safia Azzedine aux éditions Stock. Donc nous allons commencer par Sophie et sa courge. Nous allons être très légumineux aujourd'hui. Et c'est Monique qui l'a lu pour nous, l'histoire d'une petite fille qui choisit au marché une courge avec sa maman.
Voilà, donc l'auteure est américaine. Elle a débuté sa carrière en tant que journaliste et a travaillé dans la communication. Elle écrit des albums pour enfants. Et donc celui-ci, tu parlais de roman, mais en fait c'est un tout petit album qui est assez drôle et plein de charme. L'illustratrice est d'origine alsacienne et née en Angola. Diplômée des Beaux-Arts de Lausanne, elle enseigne l'illustration. Donc ce petit album, un petit bijou plein d'humour et de tendresse qui nous raconte l'histoire de Sophie. Sophie, une petite fille qui a la langue bien pendue et qui sait vraiment ce qu'elle veut. Elle adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont se balader, elles vont à la bibliothèque, faire des galipettes dans le pré. Et Bernice est beaucoup mieux qu'une poupée. Bernice est une courge. Le légume, bien sûr. Par un beau matin d'automne, sur le marché avec ses parents, Sophie choisit une belle courge que sa maman destine au repas du dîner. Mais Sophie a une autre idée, donc elle décide que Bernice, c'est le nom qu'elle lui donne, sera sa meilleure amie. Mais voilà, une courge, ça finit par s'abîmer. Alors, pour Sophie, difficile d'accepter cette idée. Et même champion, le poisson rouge ne la remplacera jamais. Donc le secret pour garder une courge en pleine forme, eh bien c'est le fermier qui va lui souffler la réponse. Et moi je ne vais pas vous la donner, il faudra aller la chercher dans l'album. Alors d'une manière détournée, l'auteur a choisi d'évoquer le besoin d'amitié, la perte, le deuil et le cycle de la vie aussi. Bon, alors l'histoire en soi, elle n'est pas follement originale, mais le texte est plein de charme. Et Sophie a des réparties qui sont vraiment très drôles, c'est une petite fille très espiègle. Les illustrations ont un petit air naïf, mais foisonnent de détails. En particulier le chat, qui est toujours là, quelque part, caché dans la page, qui guette. Qui surveille Sophie et qui guette sa première bêtise. Et ces images sont quand même intéressantes parce que je trouve qu'elles ajoutent beaucoup de choses à l'ellipse du texte, qui est parfois très elliptique justement. Donc voilà, un petit album agréable à lire autour d'une histoire d'amitié, pour le moins inattendue, parce qu'on n'aurait pas forcément pensé à une courge.
Non.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas allé en prison, comme dans le livre dont on va parler.
Oui. Bon, et puis Sophie est toute mignonne, toute petite On va pas lui prêter des mauvaises intentions. Bon, elle a une bouille adorable en plus dans les dessins.
Oui, elle est très rigolote.
Oui, c'est vraiment drôle, voilà. Mais je pense que c'est un livre agréable à lire le soir avant d'aller se coucher. Il y a de quoi rebondir sur plusieurs textes, plusieurs images. C'est vrai que ça n'a rien de... Enfin, c'est pas très original, mais bon, l'idée de passer par le petit récit pour... S'initier au jardinage, je dirais, c'est pas mal.
Ouais. Parler aussi d'amour enfantine. Même les enfants ont des amours.
Exactement.
Les petits enfants.
Non, mais puis en plus, cette idée de s'attacher à un fruit, c'est vrai que c'est un peu original, mais c'est vrai que les enfants, ils ont tendance à prendre des objets transitionnels qui sont pas toujours ceux qu'on attend, quoi.
Oui, tout à fait, oui, c'est vrai.
Donc ça, c'est un livre plein de charme. Et on va écouter, pour être encore sous le signe de l'humour, une chanson de Linda Lemay qui s'appelle Macédoine.
Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet, elle plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille. Ils ont fait un navet. Ma tante, elle est une tarte, une grosse tarte au bacane. Elle aille trois tomates de différentes bananes. Je connais aussi un œuf en voiture sport qui promène son bacon et sa saucisse de porc. Et moi, je suis du boudin. Maman dit que c'est pas grave, qu'il faut pas que j'aie de chagrin, qu'il faut que je sois brave. Elle dit que du boudin, il y en a qui adorent ça. Il y a sûrement un raisin qui me fera des petits pois. Elle me raconte sa vie, sa petite vie de navet, ses premières cochonneries avec un jeune poulet. Elle dit que je suis belle, ou enfin très jolie, que je vaux bien n'importe quel bâton de pépéroni. Mon frère est une salade césarienne. Il a pas de camarade, il a mauvaise haleine. Mon voisin le jambon a marié sa vieille truite.
Nous allons vous parler de Bilkis. Un roman qui vient de sortir, mars 2015. Son auteur, Safia Azeddine, est née en 1979, c'est une jeune femme, et elle a déjà un beau parcours dans le monde du journalisme, du cinéma et de la littérature, puisque c'est son sixième roman. Elle est née de père marocain et de mère française, elle a la double nationalité, et ça a toute son importance dans le roman que nous vous présentons aujourd'hui. L'héroïne est une femme qui s'appelle Bilkis, donc, qui dans sa geôle attend l'exécution de la sentence. Qui l'attend. Dans un pays où les mollahs ont établi des règles de vie strictes, il n'y fait pas bon être une femme. Elle le dit dès le départ, d'être femme, c'est quand même le début des ennuis. Et un matin, l'imam complètement saoul n'arrive pas à se rendre en haut du minaret pour appeler à la prière, et elle le fait à sa place, en donnant sa vision personnelle de la foi, appelant au pardon surtout. Sa beauté tragique ne laisse pas indifférents les hommes éperdus de sainteté qui l'entourent. Et les messes négligées qui dépassent de son voile sont pour eux de véritables provocations. Elle risque pour ces deux faits d'armes une lapidation pure et simple. Mais le juge qui doit prononcer la sentence en recule chaque jour l'exécution. Il est comme subjugué par Bilkis, qui ne mâche pas ses mots, renvoyant les hommes à leur toute puissance, en particulier avec des allusions sexuelles assez crues. Une Américaine interpellée par les vidéos qui circulent sur le net du procès se mêle de l'affaire.
Oui, ça fait penser à la photo de l'Afghane qui a parcouru le monde et qui a été en première page de Géo, d'ailleurs, avec ses magnifiques yeux. C'était juste au moment où les Américains attaquaient les talibans.
Voilà, et justement, elle va développer cette histoire dans le livre avec cette Américaine qui arrive. Et qui essaye de, avec sa compassion et ses bons sentiments, de s'ingérer dans l'histoire avec un appareil photo, évidemment, et en lui montrant qu'en fait, Bilkis est, en montrant à Bilkis qu'elle est en photo sur un mug et sur des t-shirts, parce que quelques années auparavant, elle s'était laissée prendre en photo par un reporter, un jeune homme,
un étranger,
qui faisait un voyage dans le pays. Et donc, ce livre est intéressant, on va être honnête, non pas pour ses qualités littéraires, parce que c'est écrit un peu de manière brute, et il n'y a pas de recherche de style, on va dire. Mais c'est intéressant parce que c'est écrit sous trois points de vue. Bilkis, qui est en prison, qui est, la femme voilée, opprimée. Le juge, qui doit prononcer une sentence contre cette femme. Et l'Américaine, qui arrive avec ses bons sentiments et son envie de changer le monde. Et qui est un peu la représentante de nous, les Occidentales, qui sommes un peu atterrés par ce qui se passe là-bas, ne voyant pas non plus les défauts de notre culture. Ce qu'il faut voir, c'est que ce livre est avant tout un conte. Bilkis, c'est le nom de la reine de Saba, dont la sagesse et l'intelligence ont surpris le roi Salomon à son époque. Et cette histoire de condamnation reportée chaque jour au lendemain, on peut pas ne pas penser aux mille et une nuits. Hein. Donc l'histoire, elle utilise tous ces codes pour dénoncer combien nous sommes pris dans nos éducations et nos clichés. Parce que je crois qu'elle force le trait, Safia Azeddine. Elle n'hésite pas à montrer combien Nos images mentales sont faites de clichés. Et elle tire jusqu'au bout les ficelles de ça. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Et ça nous permet de nous questionner par rapport à nos vérités et les vérités que détiennent chacun des protagonistes de ce livre. Et je crois que le premier message qu'elle transmet, c'est plutôt un message d'humilité. Soyons humbles avec nos croyances et écoutons les messages de chacun. Et peut-être que les choses iront mieux, je ne sais pas. Voilà, donc et puis surtout, je crois que de là où on est, et sur nos préjugés et nos convictions, on peut difficilement comprendre réellement ces modes de fonctionnement et ces cultures lointaines. Voilà. Donc.
Oui, le cliché, c'est le mot qui convient pour ce livre, puisque c'est l'importance de la photo. Voilà. Moi, j'ai pensé au peintre des batailles de Pérez Reverté, où un combattant avait été pris en photo par un reporter international. Sa photo avait fait le tour du monde, et il avait été presque lapidé par ses voisins qui s'en étaient aperçus et qui avaient trouvé qu'il c'était un couard. Et donc, il revient quelques années après pour se venger auprès du photographe. Là, elle ne va pas retrouver le photographe.
Voilà, donc nous, on vous conseille ce livre parce que c'est un livre qui se dévore, qui pose des questions, qui a son intérêt très grand public, je dirais, mais c'est bien. Mais il ne faut pas lire ça comme une histoire vraie.
C'est un conte, oui, d'ailleurs. Voilà. Elle cite carrément lui Scheherazade et le sultan. Elle parle du juge comme du sultan qu'il faut convaincre chaque jour de retarder au moins d'un jour la
condamnation.
La condamnation et la décision à la lapidation.
Bon, sur la lapidation, c'est assez dur. Hein.
Il y a des passages qui sont très très durs.
Parce qu'elle va demander à l'américaine de lui jeter la première pierre.
Voilà.
Elle va lui demander de lui faire du mal. Et c'est, je crois qu'elle joue aussi sur les paradoxe et la fin, elle est assez terrible.
Oui, c'est vrai. Puis ça pose un petit peu la question des limites aussi, entre guillemets, hein, entre ce qui est, par rapport à la journaliste, par exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre de la nécessité d'informer, de faire savoir, et qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre du voyeurisme, par exemple les t-shirts, les mugs avec son image. Et moi j'ai trouvé ce côté-là intéressant parce que ça pose cette question-là.
Elle aborde
compassion
plein de sujets,
et voyeurisme, voilà. Et pour arriver au bout du compte, comme tu disais, ils sont tous tellement empêtrés dans leurs convictions religieuses ou surtout religieuses. Arriver à se dire que jamais, nulle part, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et que c'est très compliqué de se faire une opinion, y compris nous, femmes occidentales libres, comme tu disais, par rapport à ce que vivent ces femmes-là. Mais quoi qu'il en soit, elle est croyante et elle vit sa religion jusqu'au bout. Sauf que
jusqu'au bout du minaret, puisqu'elle va le déclarer un matin à 6h, au moment de la prière, elle déclare ses convictions. Et là, si la mère des croyants, c'est une grande mère en colère, elle, c'est l'écume un petit peu. C'est ce livre-là, pour moi, représente cette écume-là qui risque de s'envoler. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effet de style. C'est tout simple, mais on en reste à ce niveau-là, quoi. Parce que des réflexions sur la religion, il y en a effectivement d'un peu plus profondes, même sur les contradictions.
Oui,
mais
voilà.
C'est toujours intéressant de lire ça sous forme de conte, puisqu'on revient aux sources.
Voilà, exactement. Donc on va écouter Ibrahim Malouf dans un morceau qui s'appelle « Questions et Answers ».
Thank you.
sommes dans Scheherazade et je pense que ça va permettre à Joël d'enchaîner avec la Revue Blanche aujourd'hui.
Oui, la Revue Blanche, c'est quand même la maison d'édition qui a édité Les Mille et Une Nuits à partir de 1897. Hein, c'est la nouvelle traduction, la traduction du docteur Mardrus, qui était une traduction non expurgée. Et je crois que ça a donné beaucoup d'idées aux lecteurs et aux lectrices de cette époque-là. Et je pense que les Mille et Une Nuits et toutes les contes qui vont autour, toutes ces idées, donc on a parlé tout à l'heure, inconsciente, proviennent de cette lecture. Je crois que c'est rentré complètement dans l'inconscient de l'Occident, de ses lecteurs, puisque encore ça reste d'actualité, puisque pour illustrer un livre de 2015, on utilise toujours ce message de Scheherazade qui défend, mais sereinement, sa vie tous les soirs, puisqu'elle est condamnée tous les matins à périr par le sultan des mains du grand vizir, mais si elle le séduit par la narration, par le conte, si bien qu'il est, il demande toujours à connaître la suite et ça se perpétue pendant mille et une nuits. Et les contes des mille et une nuits ont envahi notre quotidien, ou en tout cas le quotidien de ces années 1900, puisqu'il faut voir que la grande exposition universelle de 1900 a été placée sous le signe de la fée, on est déjà dans le conte, c'était la fée électricité, et la fée électricité était représentée par la lampe d'Aladin. Et puis, Scheherazade et les symphonies, il y a une symphonie Scheherazade qui a été jouée par le groupe les ballets russes, ont été interprétés par les ballets russes, et bon, il y a eu d'autres conceptions là-dessus, mais on reste toujours dans cette idée de conte. Je suis content que ce soit la Revue Blanche qui l'ait lancée, parce que la Revue Blanche, c'est un moment extraordinaire de la fin du 19e. La Revue Blanche qui a été fondée en 1890-91 par les frères Nathanson et leur compagne, va concentrer toutes les énergies et on l'appelle la revue de l'interrègne, c'est-à-dire tout ce qui était en gestation et qui va exploser dans le début du 20e siècle. Mais elle va être confrontée très rapidement à l'affaire Dreyfus et elle va se scinder, Dreyfusard, anti-Dreyfusard, mais la revue elle-même va rester anti-Dreyfusard, accueillir Zola, et en même temps, elle va être mener des luttes anticoloniales, condamner le massacre, le génocide arménien, ce qui était déjà important à cette époque-là. Et elle va être dirigée de main de maître par quelqu'un dont j'ai déjà parlé, par Fénéon, à partir de 1894. Et Fénéon va représenter la concentration de toutes ces énergies, puisque Fénéon, c'était le spécialiste du raccourci. Et il va réussir à fédérer des gens aussi différents que Gide et Léon Blum, et d'autres grands auteurs. Il y a même Proust qui va y participer au début, avant sa mort. Mallarmé y participera, et la Revue Blanche va donc concentrer toutes ces nouvelles idées en littérature, mais aussi en peinture, en sculpture et dans tous les arts, aussi bien en musique aussi, où elle va faire la promotion de Wagner, elle va soutenir Rodin, elle va soutenir Vuillard, Bonnard et éventuellement aussi Gauguin, puisque Octave Mirbeau va être l'acquéreur des Gauguin, mais aussi des Van Gogh. Donc voilà, toute cette revue-là, c'est un grand concentré, et je crois qu'on aurait bien besoin de lieux comme ça en 2015.
Mais le terme Revue Blanche, il a été repris par plusieurs maisons d'édition, non ? Ou il n'y a pas eu de...
Alors, je ne sais pas, en tout cas, elle s'est appelée Revue Blanche par opposition au Mercure de France, qui a été créé en 1890 et qui avait une couverture mauve. Donc, elle a gardé cette couverture blanche et elle s'est lancée dans l'édition. Non, il y a eu la Revue Noire, mais ça, c'était un petit peu plus tard, avec Joséphine Becker. C'est une vraie revue, une revue de cabaret.
Je crois qu'il y a la collection blanche, non, chez Gallimard.
Alors, la collection blanche, ça, c'est venu avec la NRF. C'est une autre revue, la Nouvelle Revue Française, qui a été créée par Gide, qui, lui, venait de la Revue Blanche.
Voilà, oui. Il y a quand même
Tout est lié au niveau des revues. Mais la Revue Blanche, c'est un monument.
D'accord.
Voilà, merci.
On va écouter du Erik Satie.
Thank you.
Donc, pour aujourd'hui, les délires, c'est fini. Nous vous avons présenté Sophie et sa courge de Pat Zitlo-Miller, illustrée par Anne Wilsdorf, aux éditions Kaléidoscope, Bilkis, de Safia Azedine, avec Joël, aux éditions Stock. Et Joël nous a parlé de la revue blanche, avec un petit mot sur Scheherazade. Cette émission a été présentée par Monique, Joël et Fred, avec Mathias à la technique. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.